Mais aux yeux des juifs, c'est un scandale qu'on nous dise que chez nous, c'est chez les autres. Alors, reliez les deux choses. C'est... Il y a deux scandales inouïs qu'il faut relire. Et en fait, ça veut dire être étranger chez soi. Je vais raconter comment je l'ai vécu, moi. Je me souviens, quand j'étais au lycée en Algérie, j'étais dans une ville très antisémite, et j'ai jamais compris pourquoi les juifs se réclament de l'identité pied noir. Les pieds noirs, c'était des anti-juifs. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire pied noir. Les juifs n'ont jamais été des pieds noirs. Les pieds noirs, c'est les Européens qui ont débarqué en Algérie et qui avaient des souliers noirs, alors que les juifs avaient des babouches jaunes. Vous avez encore vu ces babouches du grand-père. Et alors, on les appelait Rajal Khal, ça veut dire les pieds noirs. Et alors, je reviens au problème. Quand il arrivait qu'au lycée, il y avait un juif premier de la classe, et ça arrivait souvent, on entendait une rumeur dans la classe, les juifs en Palestine. Et alors finalement, on arrive en Palestine, et alors on nous dit, ah, là, c'est pas chez vous. C'est le même problème. On dit plus aujourd'hui les juifs en Palestine. Aujourd'hui, on dit les juifs à la mer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où on est arrivé.
Vous avez dit une fois, si on n'est pas chez nous, chez nous, alors ils ne sont pas chez nous. Je sais, je... Vous avez dit une fois comme ça.
En parlant de qui?
En parlant, je ne sais pas, des Arabes.
Non, je ne crois pas. C'est clair, c'est que je vous ai cité une fois, peut-être en ce séminaire encore.
Vous dites qu'ils sont partout, ils ont été impérialistes partout. Le seul pays où ils sont issus, c'est l'Arabie.
Et encore, on ne sait pas où c'est. L'Arabie, c'est où, dites. Mais en tout cas, le fait que le seul pays où, dans la mémoire universelle, il y a des traces que peut-être c'est chez lui, c'est Israël, le peuple d'Israël, la Bible l'a diffusé partout, vous comprenez, compris. Mais pour tous les autres peuples, on n'a aucune preuve qu'ils sont chez eux. Vous savez que... D'où viennent les Germains? D'où viennent les Francs? D'où viennent tout ce que vous voudrez? Qui est chez lui? Alors, s'il y a un pays au monde, dans l'histoire humaine, où il y a quand même des papiers, on appelle ça le cadastre, c'est bien Israël, la terre d'Israël. Alors, la stratégie des Goïm, c'est de dire, mais c'est une terre promise, et bien on vous la promet. Attendez le Messie. Et les juifs en boîte. Et ce qui me secoue le plus, c'est que les juifs disent ça au nom de la Torah, les juifs orthodoxes, disons, entre guillemets, disent ça au nom de la Torah. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont perroquets d'Égoïm. C'est vraiment un peuple extraordinaire, donc. Un jour, j'ai inventé un midrash. Vous savez qu'il ne faut jamais faire ça. Hein. Voilà, j'ai formulé ça de manière suivante. Un jour, le bon Dieu a décidé de sauver l'humanité. Et il s'est demandé par qui je commence. Alors, il a eu une idée géniale. Il a dit, je prends le peuple le plus difficile. Si ça marche avec eux, je fais passer les autres. Et ça ressemble. Hein. En fait, c'est ça. Bon, rassurez-vous, c'est le plus grand peuple du monde. Mais... Donc, allez, il y a une autre question. Ken, alors, oui.
Non, mais vous n'avez pas répondu à la question d'Israël. Pourquoi il n'aurait pas changé de nom?
Parce qu'il n'a pas changé.
Non.
Parce qu'il n'a pas changé de pays. Écoutez,
C'est le fait de changer de nom.
Mais oui, Abraham, c'est le nom d'Abraham en Kazdim. Abraham en Israël.
Il appelle son nom.
Jacob, c'est le nom de l'exil. Israël en Israël. Isaac, c'est Isaac. Et nous avons un célèbre historien qui a été prénommé Jules et qui l'a établi. Donc, en fait, il a établi les implications. Et rappelez-vous ça, Isaac a eu une seule terre, une seule femme, un seul Dieu. On mettait ça ensemble.
Pourquoi il fallait que Jacob aussi
parle? Je crois qu'il faut inverser la question. Quand les causes de l'exil arrivent, alors Jacob va en exil. C'est-à-dire, quand les causes de l'exil sont là, alors il faut que Jacob aille en exil. C'est pas parce qu'il fallait qu'il aille en exil que les causes de l'exil sont arrivées, c'est l'inverse. Il y a une grande querelle entre le Maharal et presque tous les autres commentateurs. Tous les autres commentateurs disent que La cause de l'exil, c'est que Joseph a été vendu par ses frères. Et le Maharal a inversé cela, en se basant sur les sources, en disant c'est l'inverse. Joseph a été vendu par ses frères parce que l'exil devait commencer. Vous voulez que j'en parle plus ou c'est clair?
C'est très intéressant. Moi, je
plus. C'est parce que l'exil devait commencer que Jacob a envoyé Joseph se faire vendre par ses frères. Et il savait où l'envoyer, je vais vous lire le texte. Okay. Ça vaut la peine de voir ça. Mais je vous demandais la charité juive d'un verre d'eau, si c'est possible. Et alors, je vais attendre le...
On avait étudié ce thème-là oui. Dans le chapitre 9 du Givre d'Hachem.
Du livre de
Du Givre d'Hachem.
Avec moi?
Oui, il y a longtemps. Oui.
Il y a longtemps, mais je vais vous donner la
c'était
source.
C'était la directive de l'exil dans l'œuvre de Marc.
Ah, il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Oui. Vous avez les cassettes? Non. Heureusement qu'il y a la mémoire électronique. Attendez, il faut que je réponde à ça. Et en particulier, cette controverse était entre le Maharal et Nachmanide. Et le Maharal n'a pas cité Nachmanide, parce qu'il avait beaucoup de respect pour lui, mais il a cité Abravanel à Boulet Rouge, en disant pourquoi vous trouvez des explications alors que le Talmud lui a dit pourquoi l'exil devait commencer. Alors cherchez la raison dans le Talmud. Vous comprenez ce que je dis. Par exemple, il me semble que c'est Abravanel. Est-ce que c'est Abravanel ou c'est encore Nachmanide? Je crois que je vous ai inversé. Hein. Joseph et ses frères, c'est Abravanel. Nachmanide dit, c'est là, il faudrait que je vois les textes, hein, sous toute réserve, puisque c'est enregistré, mais c'est un ou l'autre, ou réciproquement. C'est la sanction de ce que Abraham a dit de Sarah qu'elle était sa sœur. Alors, c'est Abravanel, ça. Alors, tout ce qui est arrivé là à Abraham et Sarah, ça arrivera à la descendance en Égypte, à cause de cela. Alors, on peut rendre compte de cette explication, et la cacheriser, si vous voulez. Si je n'étais pas fatigué, je le ferais. Peut-être je vais le faire après un verre d'eau. Mais le Maharal dit d'abord ce que le Talmud a dit. Le Talmud s'est demandé, mais pourquoi Abraham a été puni de cette prophétie, 400 ans, ta descendance sera en exil. Alors, je vais reprendre ce thème. En attendant, est-ce qu'il y a une autre question? Attendez, c'était mademoiselle. Pardon? Au cours ou à la conférence? Oui. C'est pas? Et quel est le problème? Mais non, je ne me souviens pas d'avoir dit ça comme ça. Non, alors, heureusement, c'est enregistré.
J'avais dit que l'allié en mâche.
Attendez, voilà ce dont je me souviens. J'avais cité le fait qu'on me demande souvent est-ce qu'il y aura assez de place pour tous les juifs? Et j'ai répondu que la question ne se pose que pour un à la fois. C'est ça que j'ai répondu. Les autres, ce n'est pas votre problème, c'est ça que je veux dire. Écoutez, là nous sommes en plus petit comité. Il y a quelque chose de très difficile dans cette question quand elle se pose à Paris. Et que c'est moi qui dois répondre, alors que celui qui me pose la question, c'est celui qui est en question. Je sais pas si c'est très inconfortable pour celui qui pose la question, alors je ne peux pas répondre. Parce que, imaginez la position très inconfortable d'Armand Abécassis dans ce qu'il a expliqué, pour ceux qui ont suivi ça. Alors il a été obligé de dire, vous voyez, les juifs ne reviennent pas alors qu'ils devraient revenir. Bon, ça on peut en discuter, c'est notre problème, mais non, mais c'est le sien le problème. Vous êtes con. Et alors, je dirais que les raisons qu'on donne, qu'on croit être objectives, lorsqu'on veut expliquer pourquoi on fait la Aliya ou pourquoi on ne la fait pas, sont toutes secondaires. Ce n'est pas les vraies raisons. Et les vraies raisons vont beaucoup plus au fond. C'est un problème d'identité profonde. Il faut laisser à chacun le temps que son identité se dévoile. Maintenant, je parle en tant qu'Israélien, selon nous, on n'a pas le temps. Les problèmes sont urgents. D'où le caractère irritant de la question. Il est évident que chacun... Tous les Israéliens ont d'abord été des Juifs de diaspora. Donc c'est à un certain moment qu'ils ont décidé, le moment est venu. Vous comprenez ce que je veux dire? Seulement, il y a une pression des événements. La pression des événements, je vais la formuler comme ça. Il n'y a pas assez de Juifs en Israël et il y en a trop ailleurs. Et ça fait deux problèmes différents. Alors, c'est ça l'urgence de la question. Toutes les autres analyses de motivation, je viens pas. Vous savez, courant alternatif du tourisme en Terre Sainte, je viens. Tout ça, c'est secondaire. Quand quelqu'un dit qu'il va en Israël pour pouvoir être religieux, bon, eh bien, très bien, mais est-ce qu'on peut pas être religieux ailleurs et pendant 2000 ans, comment on a fait? Quand quelqu'un qui dit je vais en Israël pour pouvoir être socialiste, on ne peut pas être socialiste ailleurs. En réalité, il va en Israël parce que ses pieds l'amènent en Israël. Et quand il arrive là-bas, il se dit tiens, ici, je me demandais pourquoi je suis venu. On va en Israël parce qu'on est juif, tout simplement. Vous savez que je ne fais pas partie des partis sionistes. Jamais été sioniste d'un parti. Tout simplement parce que pour moi, ça coïncide la Halia est juif. Qu'il faille être sioniste pour être juif, ça ne me rentre pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut passer par une idéologie. Et alors, sioniste, c'est quoi? C'est sioniste comme ça, sioniste comme ça, sioniste comme ça. Et alors, vous avez un éventail. Vous savez, l'organisation sioniste ici, c'est pire qu'à la Knesset. Parce qu'à la Knesset, chaque député représente quelque chose. Mais ici, chacun représente même pas soi-même. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Et alors, il faut faire cet effort d'analyse que, au fond, c'est une question d'identité profonde. Et c'est pourquoi j'ai refusé de raconter cette histoire. Je vous la raconte pour la compléter. Il me semble que j'ai oublié un détail, enfin un détail, une dimension. Quand je vous ai dit, un jour, je parlais dans une assemblée de juifs à Paris, et quelqu'un s'est levé pour dire, j'irai en Israël, que j'ai des garanties pour la Torah. Et je lui ai répondu, si tu demandes des garanties pour entrer chez ta mère, c'est que peut-être c'est pas ta mère, tout simplement. Alors je lui ai dit, ça a réagi tout de suite, que c'était pas un juif. Il était en cours de conversion, je vous l'ai précisé. Okay. Vous avez compris jusqu'où ça va? Alors il est fort possible que, pour quelqu'un qui n'est pas d'Israël et qui accepte la Torah, hérite Israël, ça lui pose un problème, parce que c'est pas sa terre d'origine. Alors j'ai pas dit que les orthodoxes, qui... Bref, non, mais... Vous voyez où on va. Okay. C'est ce qui est arrivé à la sortie d'Égypte, quand le Hérav que Moïse a emmené avec lui a accepté la Torah, mais pas Eretz Israël. L'explication est très simple. Ça, c'est la terre des Hébreux. Vous avez compris ce que je veux dire? Nous, on est du Soudan, on est de l'Auvergne, on est de la Bretagne. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit là. Okay. Alors, on a le droit d'identifier personne, mais il y a un problème objectif. Qu'est-ce que c'est que ces juifs qui se feraient tuer pour la Torah à New York? Qu'est-ce qu'ils ont avec l'Amérique? Vous avez compris ce que c'est? Bon. Et alors, j'ai cité personne. Vous savez quelle est l'étymologie hébraïque kabbaliste de America? Amrek. Et le plus fort, c'est que c'est vrai. Bon, je ne traduis pas.
Par quel mot? C'est le peuple et ensuite
Rek. Rek, ça veut dire vide.
Mais c'est pas.
C'est pas gentil pour la mairie.
Qui a le plus de. C'est là qui a le plus de jus, justement.
Mais c'est l'appel du vide, justement. Alors attendez, je vous en sais très... Ah oui, vous avez une question.
Vous voulez demander. C'est sur Job, moi.
Ah oui, alors je finis ça et on arrive à Job. Vous m'avertissez à 10h25. Hein. Oui,
c'est l'heure.
Stéphane?
À midi 25 alors.
À midi 25, oui. Voilà. Alors, c'est quand Jacob a pris acte qu'il n'y avait pas d'unité entre ses enfants, alors il se résout à ce que l'exil doive recommencer. Vous notez bien ça? Okay. Ouais. Vous relirez toute la scène des rêves de Joseph et de la querelle entre les frères et Joseph. Donc apparemment, c'est une querelle de famille, jalousie du Benjamin préféré, apparemment. Et en fait, on voit que le contenu des rêves, c'est de nouveau le rêve de la mission d'exil. Et alors, les frères ne sont pas d'accord. Ils voient qu'il n'y a pas unité, il y a rupture. Alors il se décide à envoyer Joseph commencer l'exil. Et comment ça se passe? Je vous lis. En vous donnant la référence, c'est donc dans Reichklach, probablement, une minute. Hein. Non, non, c'est dans Vayeshev. Au début de Vayeshev. Alors, vous êtes au chapitre 36. Chapitre 37. Chapitre 37, et je vais vous donner le verset. Chapitre 37, au verset 13. Vayomer Israël et Yosef. Et Israël dit à Joseph, Allo Achecha Roim Bishchem, n'est-ce pas que tes frères font perdre le troupeau à Shchem? Lecha va, veeshlachacha aleem, et je t'enverrai vers eux. Vayomer lo, ineni, et Joseph a dit, me voici, je suis prêt. Vayomer lo, lechna reet shlom achecha, il dit, va voir l'état de la paix de tes frères, veeshlom atzon, et l'état de la paix du troupeau. Vashiveni davar, et ramène-moi une réponse. Vaishalechehu, il l'envoya, mais Emek Chevron, de la vallée de Chevron, Vayavu Shechema, il arriva à Shrek. Rashi cite un midrash sur l'expression du verset 14, mais Emek Chevron, de la vallée de Chevron. Voici Rashi. Va'alo Chevron Bahar. Mais n'est-ce pas que Chevron est sur la montagne? Chez Nehemar, d'après ce qu'il est dit dans le livre des Nombres, chapitre 13, Vayahalu Banegev, ils montèrent du Negev, Vayabo, à Hebron, il arriva jusqu'à Hebron. Donc il faut monter pour aller à Hebron. Et là, mais voilà ce que dit le Midrash, il l'envoya, mais Asa Amuka, chez l'auto tzadik Kabur Behebron. À partir de la pensée profonde de ce tzadik qui est enterré à Hebron, il s'agit d'Abraham. Emek, en hébreu, ça veut dire la vallée. C'est la racine Amok, ce qui est profond. J'ai compris comment le Midrash interprète. Les cahiers machinés et marlés à Abraham afin de réaliser ce qui a été dit à Abraham, Ben Abetarim, dans la vision de Ben Abetarim, qui guérit Zahacha, car ta postérité sera étrangère. Ça veut dire que Jacob sait très bien où il envoie Joseph, se faire juger par ses frères qui l'enverront en exil. Ils l'enverront réaliser son rêve. Joseph rêve d'être le messie de l'exil, alors ses frères le jugent. Et l'envoie, eh ben va, essaye, on verra bien. Est-ce que c'est clair? Donc vous voyez que c'est la mer. C'est parce que les causes de l'exil sont arrivées que Joseph a été vendu par ses frères. Et c'est pas la mer. C'est pas parce que Joseph a été vendu par ses frères que l'exil a commencé. Vous voyez que j'ai souvent entendu des sermons de rabbins qui inversent les choses dans tous les problèmes. Okay.
C'était sûrement dans les intentions des frères.
Oui, leur faute,
il
reste
leur faute. C'est une raison mystique, mais quand ils ont vendu Joseph, c'était pas dans ce sens.
Je comprends pas qu'au bout de tellement d'années, vous vous rendez compte qu'on lit pas les pieds nickelés. On lit la Bible. On lit pas des anecdotes. Imaginez ce que la Bible nous raconte. C'est que les frères ont fait passer en jugement comme traître Joseph. Pourquoi? Parce qu'il rêve d'étoiles, parce qu'il rêve de gerbes de blé, parce que le papa lui a donné... deux ouzimes de plus, de quoi on parle, okay. Et ajoutez ça à tous les récits de la Bible depuis le début. D'ailleurs, petite parenthèse et je reviens. D'après la Gemara, il devait être condamné à mort. Okay. Comment? On rentre de l'exil de Laban. On revient, la famille revient à l'exil de chez Laban. Jacob a essayé ça, d'être le berger des troupeaux de Laban. Et dans les meilleures conditions, les conditions optimales, chez quel goy il était? Chez son oncle, c'était son beau-père. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Laban. Et puis, à la fin de son travail, de berger des troupeaux de Laban, un antisémitisme, moi, anachronique colossal de Laban se déclenche. Okay. Il faut s'enfuir sous peine de Shoah. On rentre dans le pays de Canaan, il y a un bébé qui vient de naître, Joseph. Les frères étaient adultes au moment de la sortie d'exil de Laban. Qui recommence à rêver. Ah, vous savez, il faut être des étoiles dans la nuit. La nuit, c'est l'égoïme. Là où le blé pousse, il faut aller faire des gerbes. Allez, on y va, on recommence. Okay. Alors les frères le passent en jugement et le condamnent à mort, dit la Gemara. Il devait être condamné à mort. Et c'est Réhouven et Judas qui le sauvent, en disant non, on va le condamner à l'exil. Il rêve l'exil, il aille en exil. C'est clair jusque-là? Bon. Alors c'est de ça qu'il s'agit, c'est de notre histoire qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de petites anecdotes Et c'est une aventure tragique. Et alors, je vais formuler ça comme ça. C'était un des premiers séminaires du collège, à 35 ans que j'avais dit ça en Sorbonne. Quand c'est le temps de Joseph, alors c'est Joseph qui est le tzaddik. Quand c'est le temps de Moïse, c'est Moïse qui est le prophète. Le vrai problème, pour bien comprendre ce récit, ça commence à Joseph, ça s'achève à Moïse. Joseph diagnostique qu'il faut aller sauver le monde par l'Égypte. Bon, les frères ne sont pas d'accord, et ça se passe, la providence intervient, c'est le temps de l'Égypte. Moïse, qui est dans la même situation que Joseph. Joseph, c'est l'hébreu déguisé en égyptien, et c'est l'hébreu qui se déguise en égyptien pour monter sur le trône du pharaon. Et Moïse, c'est l'hébreu déguisé en égyptien qui est l'héritier du trône de pharaon et qui enlève le déguisement égyptien. Et il dit, c'est un échec, on rentre chez nous. C'est moi, ça c'est moi. Donc le problème, c'est pas que lequel des deux est cachère, les deux sont cachères. Donc quel temps on est? Si on est dans le temps de Joseph, c'est Joseph la figure de proue. Si on est dans le temps de Moïse, c'est Moïse la figure de proue. Or, qu'est-ce que l'histoire a fait du temps où nous vivons? Elle nous a mis dans une problématique. Les uns pensent que c'est Joseph, les autres pensent que c'est Moïse. C'est clair, vous voyez comment le problème se pose. Mais en fait, d'après vous, quel est votre avis?
C'est une continuité. Chacun est solidaire de l'autre, mais dans son temps.
Ah non, non. Où c'est le temps de Joseph? Alors, toute la famille de Jacob descend avec Joseph. Où c'est le temps de Moïse? Toute la famille de Jacob rentre chez elle, et ceux qui ne rentrent pas, bon, allez, oh. Vous avez compris, c'est ça le drame.
Même Joseph, puisqu'on emmène les enseignements de Joseph.
Voilà, exactement. Bon, je vous ai parlé en chinois. Hein. Et vous voyez, la situation est inconfortable. Hein. Donc, alors, faire semblant qu'on ne voit pas ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe, et parler de solidarité entre Joseph et Moïse, ça me paraît un peu arbitraire. Qu'est-ce qu'a dit Joseph avant de mourir? Vous amènerez mes ossements. Hein? Et d'ailleurs, il y a beaucoup de juifs de la Gola qui ne connaissent Israël que comme cimetière. Surtout, gardez-moi une place là-bas. Hein? Ça s'appelle une place en terre. C'est là où on met le placenta à la naissance. Bon, alors je reviens à vous, au problème. Attendez, il y a Job et après vous. Chacun. Alors, pour formuler la question sur Job.
Vous avez dit que le Job était
oui.
Oh, non. Job avait peur que ses enfants fassent des fautes.
Et fait
des fautes pendant leur soirée. Et il faisait des sacrifices
préventifs,
c'est ça. Est-ce que c'est simplement là, c'était une faute
d'avoir fait ces sacrifices?
Est-ce que ça manque de confiance ou est-ce que c'est...
Non. Alors ceci dévoile, je vais répondre à votre question. Ceci dévoile d'abord un scrupule supplémentaire de Job. Il est tellement juste que peut-être que dans la joie de la fête, mes enfants ont blasphémé, alors j'explique pour eux. Au contraire, ça dévoile que Job n'est pas sûr de ses enfants. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faute d'acte en Job. Il y a un défaut d'être qui doit être corrigé. Job est une manière d'être juste qui ne peut pas passer le temps. Puisque voilà, ça aboutit au monde de la fête. Donc, c'est un monde messianique, la famille de Job. Okay? Mais voilà, dans ce monde messianique de Job, qu'est-ce que Job fait? Il fait des sacrifices préventifs de peur que ça ne soit pas caché. La réponse est qu'il faut analyser cette catégorie. Nous sommes habitués à la notion de faute d'acte, de mérite d'acte. Mais au-delà, plus profond, il y a une manière d'être au niveau de la faute et du mérite. Bon, c'est une catégorie mystérieuse pour la pensée occidentale. C'est clair? Okay. Et alors, c'est dans son être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et pas dans ses actes. Et chaque fois que ses amis, les théologiens, disent scrute tes actes, tu verras bien que tu as fait des fautes. Dieu répond, il n'a fait aucune faute. Ne dites pas cette bêtise. C'est dans son être qu'il y a cette incapacité d'être le tzaddik de la génération qui vient. Il est le tzaddik de la génération passée. Et c'est très dramatique, nous avons une page dans Baba Batra, dans le Talmud, qui dit « La souffrance du juste dans le profil Job, qui il n'arrive pas, je sais pas comment dire, il souffre du fait que l'authenticité passe dans une autre manière d'être sadique, et qui n'arrive pas à être lui capable d'être cette autre manière d'être sadique. Et j'ai une fois exprimé ça comme ça, mais on pourra encore y revenir. Vous savez, nous sommes dans une génération, peut-être plus déjà, enfin quand j'étais enfant, tous les juifs assimilés que je rencontrais tenaient à me dire « Ah oui, mais mon grand-père, tu sais. » Voilà. Alors le grand-père en question, avec un petit-fils pareil, il a la souffrance de Job. Okay. Mon grand-père, ce saint homme. Mais ce saint homme, eh bien, il souffre de voir son petit-fils parler du saint homme. Vous avez compris?
C'est
dramatique.
Comment peut-on être sûr de ses descendants? On a assumé éducation cachère. Après, comment peut-on être sûr? Enfin, bon, au niveau des tzadikim, c'est vrai que ça se...
Non, j'ai très bien compris votre question. Si vraiment on a fait ce qu'il faut, bon. Mais même si on a fait ce qu'il faut et que ça ne marche pas, c'est quelque chose qui ne marche pas. Moi, j'ai toujours été frappé par ça. Et alors, dépersonnalisons le problème. Pensez à personne. Okay? Pensez à personne, parce que c'est dramatique comme problème. Comment se fait-il que cette tradition juive implique une telle ambiguïté? C'est vrai, c'est la vérité, mais j'en suis pas. Et c'est la mienne. Il n'y a qu'un peuple au monde qui est comme ça, c'est les Juifs. Et vous avez compris ce que je dis? C'est inouï. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Alors c'est ça que le Maharal cherche à l'origine, à la racine de l'identité d'Israël. Qu'est-ce qu'il y avait comme perplexité d'identité qui fait que Dieu dit à Abraham, eh bien tu sauras que tes enfants iront faire une désintoxication dans l'exil et reviendront, qui reviendra? Bamaeda. Le frère du Maharal, une minute, a donné une explication terrible. Il est le frère du Maharal. Rabbi Moshe ben Betzalel, qui a écrit un livre qui s'appelle Chaim ben Betzalel, un livre qui s'appelle Sefer HaChaim, et qui traite de cette question. Une des explications qu'il donne de l'exil, pourquoi l'exil, je vais essayer de vous la formuler le plus simplement possible. Voilà. Si quelqu'un doute que la terre qui lui a été promise, c'est vraiment lui, alors il ira vivre ailleurs, jusqu'à ce qu'il soit tellement sûr qu'il n'est pas chez lui ailleurs, qu'il reviendra chez lui. Voilà comment le frère du Maharal explique. C'est terrible comme explication. Ça se relie un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui.
Et ça met des siècles.
Mais ce qui est époustouflant, c'est que ça met des siècles. Je ne sais pas, quand j'entends des grands rabbins de pays européens, je ne citerai personne, hein, parler d'Eretz Israël comme étant la terre du peuple juif, la terre des ancêtres, recouler. Mais nous n'irons que si. Que si quoi? Vous voyez où ça va? Et en attendant, nous sommes les prélats de la République française.
Pour revenir à Job, là, vous nous avez expliqué, il y a déjà quelque temps, dans un précédent séminaire, qu'en fait, le fond du problème, c'est que Job était sadique, vrai, mais il n'était pas chacham.
Nahon, ça c'est l'explication de Maïmonide. Et c'est encore un nativo, mais c'est relié. Mais en tout cas, j'ai voulu expliquer qu'il est tzadik, ça veut dire qu'il n'a pas fait de mal au niveau des actes. Alors c'est au niveau de l'être quelque chose qui ne va pas. Vous avez compris? Mais c'est pourquoi il faut se mettre à l'abri de la communauté. Parce que si on est un peu épinglé au jugement à l'échelle individuelle, chacun est une caricature du monde. Qu'est-ce que c'est l'individu par rapport à sa collectivité? Une manière génialement caricature d'être le modèle en question. Okay? Il n'y a que le modèle qui est authentique. Alors quand on se met à l'abri de la communauté, on est à l'abri. Vous avez compris ce que je veux dire? Okay? Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais je vous en donne un seul, c'est le début de l'histoire de Ruth. Au début de l'histoire de Ruth, on nous raconte qu'un homme de la tribu de Lévi est parti de Bethléem, et on ne le nomme pas. Deuxième verset, on les nomme. Troisième verset, ils sont morts. Alors, il y a un commentaire extrêmement important que je voudrais essayer de vous expliquer. Nommer quelqu'un, ça veut dire le faire passer en jugement. Est-ce que tu coïncides avec ce que dit ton nom? Vous avez compris? Et alors, ça veut dire interpeller en jugement. Alors, si on est à l'abri de l'anonyme, de l'unanime, si j'ose dire, on est à l'abri. Mais si on se met, juge-moi, c'est moi Israël. Amen. tout de suite qu'il y a une caricature d'Israël, qui est l'équation personnelle que tes parents t'ont donnée. Vous avez compris ce que je dis ? Vous savez, que ça, c'est un peu cette folie de l'individu qui se prend pour son peuple. C'est un faux Dieu.
C'est ça le Messie, peut-être aussi.
Le faux Messie.
Oui.
C'est que ça.
Tu dis toujours que les parents retrouvent un peu de prophétie quand ils aiment leur enfant.
Nahum.
Et puis l'autre part, je pense que c'est une visée qui dit est juif celui dont les enfants sont
juifs. Oui, c'est très. Ben c'est ça votre problème. Voilà la réponse. Okay. Et alors, ne disqualifiez personne. Vous avez des parents qui ont fait tout ce qu'ils ont pu, et puis ils ont couvé un canard. Okay. Et c'est très complexe. Je parle à l'échelle collective. Par exemple, j'entends des responsables dire nous sommes exposés à l'érosion d'identité de l'assimilation. Eh bien, rentre chez toi. Non, ça, on n'y pense pas. Il faut lutter contre l'assimilation. Alors qu'on sait très bien que c'est une bataille perdue. Vous savez comment j'ai l'habitude d'expliquer ça quand les sociologues posent la question des mariages mixtes. Je vais justement vous dire cette image. Vous avez tous les juifs qui vivent en France, sauf de rares lignées qui étaient là depuis avant Louis XIV, viennent de continents différents. Ils viennent de l'Europe centrale, ils viennent de l'Afrique du Nord, ils viennent de tout ce que vous voudrez. Et alors, les parents, s'insérant dans la société française, ont une consigne pour les enfants. Tu es français, sache que tu es français, tu seras français, promotion sociale de la cité française. Te fais pas faire, et quand on te dit ça juif, réponds, tu es français. Bon. Et on entre ça dans la tête des enfants, et c'est normal, les parents doivent assurer la promotion sociale de leurs enfants. À la maison, on parle yiddish, on parle espagnol, on parle arabe. Et on a des rites bizarres que les enfants qui ne sont pas nés dans le pays des parents ne peuvent pas ne pas vivre que comme exotiques par rapport à l'université française. Vous avez compris ? Alors, ces adolescents grandissent. Ils sont pris d'une frustration affective colossale. D'un côté, t'es français, et puis surtout, ramène pas une française, fais pas ça à ta grand-mère, ok ? Mais t'es français. Alors, en fin de compte, il ramène une Françoise. Okay ? Et alors, à ce moment-là, le père tombe en syncope. C'est pas ça que je voulais, mais c'est ça que t'as fait. Bon, c'est pas le père qui est responsable, c'est la communauté qui expose ses enfants à des problèmes insolubles. Et je justifie rien. Et après, quand ça arrive et qu'il faut arranger les pots cassés, les tribunaux rabbiniques refusent de s'occuper des cas catastrophes. Vous avez compris le problème. Alors nous les envoie en Israël, et puis et on nous reproche de les arranger en Israël, en plus. Vous connaissez toutes ces histoires de fous.
Je comprends cette tentative constante de recommencer l'histoire en Gola, d'après la Bible, d'après, comme vous l'avez dit aussi, les Juifs d'Espagne auraient bien pu revenir après l'exclusion en Israël. Malheureusement, bon, c'est comme ça ce qui s'est passé.
Ils sont allés acheter Amsterdam.
Okay. Encore, bon. Voilà.
Oui, et alors
eh bien, je pense à l'histoire que vous avez dit pour Yaakov Avinu, qui venait de quitter Laban. Et qui recommence l'histoire tragique en Angola, mais avec par le biais de Joseph. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est le comportement, avec les respects que je dois à Joseph, pour Yaakov, et pour Isaac, vis-à-vis du fils.
Voilà. Alors,
excusez-moi, il y a un petit peu de choses que je voudrais noter. Joseph revient de ses frères, il disait des calomnies à son père.
Oui.
Et juste après, le verset qui suit, et Jacob préférait Joseph à ses frères. Parce que l'enfant de vieillesse, bien que vous avez dit hier, parce qu'il était l'enfant de la femme qu'il aimait.
Oui.
Mais c'est mentionné.
C'est pas contradictoire. Oui, l'enfant de la femme qu'il aimait est né quand il était vieux.
D'accord, mais c'est juste après de t'avoir dit de médisance. Là, oui. Ça m'interfère.
Oui. Alors, écoutez, prends ton texte. Tu as le texte sous les yeux. Alors, tu l'as dans le Vayeshev. Et donc, quel chapitre je vous ai donné tout à l'heure ?
37.
37, oui. Alors, on va lire le texte. Là encore, vous avez un test où le nom de Jacob et le nom d'Israël s'entremêlent. Hein? Prenez, je prends depuis le premier verset. Vayeshev Yaakov Beretz Mekuvé Aviv. Et Jacob s'installa dans le pays des pérégrinations de ses pères. Beretz Knaan, dans le pays de Knaan. Deuxième verset. Elet Toldot Yaakov. Voici les engendrements de Jacob. Notez Jacob. Yosef, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères, et il était enfant, en compagnie des enfants de Bila et des enfants de Zilpa, femme de son père, et Joseph ramenait et Dibatam Raha, ce qui traduit par leur calomnie mauvaise, et l'habillait à leur père. Mais Israël, or Israël, aimait Joseph de plus que tous ses fils. Regardez, Jacob, Israël. Qui ben zekunim hulo. Ça a été pour lui un fils de vieillesse. Vassalo qui tenait passible, et il lui avait fait une tunique plus longue.
En récompense.
Pardon ?
En récompense.
Non, c'est la tunique des prêtres.
D'accord, mais en récompense, presque des bénédictions, c'est ça que c'est
ma soeur. Ah non,
non,
pas
non,
du
non,
tout.
Non, non, non.
On raconte. Or, d'autre part, on sait qu'Israël aimait Joseph, pas du tout en récompense. Et ses frères ont vu que c'est lui qu'il préférait de tous ses frères, et ils le haïrent, et ne pouvaient pas lui parler en paix. Ça veut dire, il y a un rite de sélection d'identité qui continuerait. Rappelez-vous le verset 2. Et voici les engendrements de Jacob et Joseph. On aura une histoire, mais isolant le verset, comme si après Jacob, c'est Joseph, et ça disqualifie les autres. Donc, il y a dans Jacob une préférence pour cette identité Joseph, qui est le Messie de l'exil. Mais Israël, c'est autre chose. Alors Israël intervient, et à un autre niveau. Et je vais vous signaler autre chose. Dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, quand Israël envoie Joseph, il dit « Vashi veni davar », c'est verset 14, et ramène-moi une parole. Or Joseph ne lui a jamais ramené la réponse à son message. Il part à Shrem. À Shrem est faire le juge, et l'envoie en exil. Et donc, il n'était pas du tout responsable de ne pas pouvoir donner signe de vie à son père. Mais quand il devient le prince de l'Égypte, il ne pouvait pas lui envoyer un message par le Shin Bet. Tu sais, je suis vivant. Et ça vous a jamais frappé, ça?
Ah, c'est sûr.
Bon. Ça veut dire, cette parole que Jacob attend, êtes-vous en paix, vous, les frères? Il ne peut pas encore la lui dire. Et ce n'est que lorsqu'il se réconciliera avec ses frères à Joseph, que Judas lui dira, écoute ma parole. Alors Joseph dit, je suis votre frère, allez voir si mon père est en paix. Vous vous rappelez de ça?
Oui.
Voilà, vous rapprochez. Alors, est-ce qu'il se passe là beaucoup plus profond? Donc, alors, est-ce que la tâche de Jacob chez Laban, la tâche de Joseph en Égypte, ça peut se faire tchic-tchac. Pourquoi on s'installe? C'est quand on s'installe que ça devient catastrophe. C'est-à-dire, Jacob est allé chez Laban pour ramener Rachel. Et puis, il voit Rachel. Et puis, je vous avais dit une fois, au lieu de la prendre sur son coursier et de rentrer chez papa-maman au pays de Canaan, il devient le berger des troupeaux du beau-père. Et c'est ça. Jusqu'au jour où ça se déclenche. De la même manière, Joseph a réussi, il a sauvé l'Égypte. On ramène ses ossements au pays de Canaan. Et on redescend, Joseph, et on redescend en Égypte s'installer. Il y a un verset qui éclate à la fin du livre de Bréchit. Melamed Sheayu Metsuyanim Sham. On lit ça dans la Gada. Ils se sont multipliés là-bas, ils sont devenus puissants. La Gada dit, mais la Mette, ça nous apprend, chez Ayu, qu'ils étaient Metsuyanim excellents. Metsuyan, vous connaissez le mot? Mm-hmm. Vous avez un restaurant chinois là-bas.
Qui est très bon d'ailleurs.
Voilà, mais c'est inouï, c'est inouï. C'est inouï. Qu'est-ce que la victoire du judaïsme dans le monde? Des Lubavitch qui installent un restaurant chinois à Montmartre. C'est la victoire du judaïsme dans le monde. Metsuyan, mais la Mette, chez Ayu, Metsuyanim. Et alors, vous vous rendez compte qu'on est en plein Kafka, ok? Il y a un commentaire. Metsuyan, c'est la même racine que Tzion. Tzion, ça veut dire par excellence. Et Metsuyan, c'est bon. L'excellence du monde, c'est Tzion. Alors on va lire Pshat. Ça nous apprend qu'ils étaient sionistes là-bas. Alors, la Torah est très claire. Elle n'a pas dit qu'il fallait rester là-bas. Elle a dit qu'il y avait quelque chose à faire, allez-y. Eh bien, revenez quand vous avez fini. Qu'est-ce qu'on avait à apprendre au vaste monde? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas plus comment. Ça fait 2000 ans qu'ils l'ont entendu. Et on insiste.